reconstruisant une gauche de combat, une gauche populaire, écologique et citoyenne, une nouvelle dynamique politique pour inventer un nouvel avenir en France et en Europe. Parce que nous avons voulu affirmer notre volonté de rassemblement, les communistes ont fait un choix historique. Ils ont désigné comme candidat à la présidentielle une personnalité, Jean-Luc Mélenchon, qui n'est pas issu de ses rangs, chacun le sait. Je veux dire, au nom du Parti communiste et au nom de Pierre Laurent, que nous sommes confiants dans la qualité de la campagne collective que nous allons mener ensemble avec Jean-Luc. Il porte à cette élection un programme partagé, élaboré avec vous, qui n'est pas bouclé, on l'a dit et répété, et je peux vous dire, vous allez l'entendre, nous sommes très loin d'être encore au bout de cette affaire-là.
Ceux qui ont acquis le pouvoir par le droit de la guerre se comportent comme un pays conquis. Ceux qui naissent rois ne sont généralement guère meilleurs. Ils naissent et nourris au sein de la tyrannie, ils tirent avec le lait la nature du tyran et regardent les peuples qui sont sous eux comme leurs serfs héréditaires. Celui qui tient son pouvoir du peuple devrait être, ce me semble, plus supportable. Mais, dès lors qu'il se voit élevé au-dessus de tous les autres, flatté par je ne sais quoi qu'on appelle grandeur, il décide de n'en plus bouger et considère presque toujours le pouvoir que le peuple lui a légué comme devant être transmis à ses enfants. Cette opinion, il est étrange de voir comme il surpasse à toutes sortes de vices et même en cruauté les autres tyrans. Ils ne trouvent d'autres moyens pour fonder leur tyrannie que de renforcer la servitude et d'écarter si bien les idées de liberté de l'esprit de leurs sujets que pour récent qu'on soit le souvenir, ils s'effacent bientôt de leur mémoire. Entre ces trois sortes de tyrans, je vois bien quelques différences. Mais de choix, je n'en vois guère. Les moyens d'accéder au pouvoir sont divers, mais la façon de régner est presque toujours la même. Les conquérants se comportent en prédateurs, les successeurs regardent le peuple comme un troupeau d'esclaves leur appartenant naturellement, et ceux qui sont élus par le peuple le traitent comme un taureau à dompter. Je poserai cette question. S'il naissait aujourd'hui des gens tout neufs, ni accoutumés à la suggestion, ni affriandés à la liberté, ignorant jusqu'au nom de l'un de l'autre, et qu'on leur proposa d'être sujets ou de vivre libre, quel serait leur choix? Sans aucun doute, ils préféreraient de beaucoup obéir à la seule raison que de servir un homme. Car pour que des hommes, tant qu'ils sont des hommes, se laissent assujettir, il faut de deux choses l'une. Ou qu'ils soient contraints, ou qu'ils soient trompés. Bien souvent, ils perdent leur liberté en étant trompés. Et en cela, ils ne sont pas toujours séduits par autrui, mais bien souvent, ils sont trompés par eux-mêmes. Il est incroyable de voir comme le peuple, dès qu'il est assujetti, tombe soudain dans un oubli si profond de sa liberté qu'il est impossible de se réveiller pour la reconquérir. Il sait si bien, si volontiers, qu'on dirait à le voir qu'il n'a pas seulement perdu sa liberté, mais bien gagné sa servitude. Il est vrai qu'au commencement, on s'est contraint et vaincu par la force. Mais les descendants servent sans regret et font volontiers ce que les autres, leurs devanciers, avaient fait par contrainte. Les hommes nés sous le joug, élevés et nourris dans la servitude, se contentent de vivre comme ils sont nés. Ils ne pensent pas avoir d'autres biens et d'autres droits que ceux qu'ils ont trouvés. Ils prennent si grand pouvoir sur nous, à surtout celui de nous apprendre à servir et à avaler le venin de la servitude sans le trouver amer. Comme on dit, Dominique Vidal, qui finit par s'empoisonner, s'habituer au poison, de s'en injecter. Nul doute que la nature nous dirige là où elle veut, bien née ou mal née. Et il faut bien avouer qu'elle a sur nous moins de pouvoir que l'habitude. L'habitude nous forme toujours à sa façon, malgré la nature. La nature de l'homme est donc bien d'être libre et de le vouloir être. Mais sa nature est telle que naturellement, il prend le pli que l'éducation lui donne. La première raison de la servitude de l'homme, c'est le péché, disait saint Augustin. La première raison de la servitude volontaire, c'est l'habitude.
Ils cherchent, mais ce sont des chercheurs. Ils cherchent, ce sont des scientifiques. Dans le temps, il faut les payer, hein. Et bien nous, quand on cherche, on est chômeurs. C'est drôle, hein.
Il faut dire que cette réunion est un bon succès. Et ouais, ça vient plus fort. Commencez doucement, parce que sinon c'est insupportable. Puis après tout, vous êtes tous des techniciens des arts et de la culture, donc vous savez, quand on parle fort, alors on se met à ressembler à quelqu'un d'autre. C'est technique. J'ai entendu toute la semaine se dire toutes sortes de choses sur mon ton gaulien, qui venait de gens qui n'entendent rien à l'oratoire. Quand on parle fort, la phrase s'allonge, par nécessité. Et il suffit que ce soit à la voix d'un ancien fumeur, et tout aussitôt elle devient grave. Allez se gronder un instant parce qu'il faut parler trop fort, l'affaire est dite. Vous voilà repeint en gaulien. Mais si je prenais la mèche, ce serait malheureux. Laissez-moi des fois un peu être Mélenchon. Comme vous tous ici, une personne libre. Le nouveau rôle qui m'a été confié, bien sûr, me remplit d'émotion. J'en mesure toute la portée. Je vous le dis, elle me dépasse. Et je sais pourquoi. C'est qu'en vous entendant, je vois, alors même qu'un fil rouge, en quelque sorte, c'est la bonne couleur pour le désigner, traverse nos propos, à quel point nous sommes en miettes. Nous sommes en miettes idéologiques. Chacun va, dit ce qu'il a à dire, frappe de son côté de la muraille pour tâcher de la faire tomber. Mais quel mal nous avons à nous fédérer, à porter une parole commune. Et ceci m'amène au cœur de ce que nous sommes en train d'entreprendre. Si je me réjouis autant de voir que ce front de gauche de la culture, commencer au Grand Parquet à Paris, continuer à Marseille, qui se prolonge ici et qui chaque fois rassemble un nombre croissant de personnes non seulement intéressées mais prêtes à s'impliquer, c'est qu'il se passe quelque chose dans la profondeur de notre peuple dont nous sommes à notre façon l'expression. Et dont cette campagne peut être le moyen. Non, ce n'est pas la campagne d'une personne. Et je supplie que l'on ne crie pas mon nom, ni qu'on fasse des pancartes, que l'on agite au premier rang, comme je l'ai vu dans d'autres meetings, où l'on se sert d'un nom comme d'un résumé. Je ne résume rien du tout, et je ne suis pas candidat à ce rôle. Nous faisons une campagne électorale qui est une étape à l'intérieur d'un processus bien plus grand que nous-mêmes, et même que cette campagne, et même que cette élection. Et ce processus porte un nom, c'est la révolution citoyenne. Elle a commencé en opposition au terrible déferlement du rouleau compresseur libéral dans l'Amérique du Sud. Elle est arrivée dans le Maghreb. Elle prend pied en Europe, en Grèce en tout premier lieu avec les 11 grèves générales qui s'y sont déroulées, avec le mouvement des indignés sur la place Syntagma. Puerta del Sol. Et nous ici, avec notre grand mouvement pour la défense des retraites, qui n'est pas seulement un arrangement social, mais une idée sur la façon de vivre en société. Voilà ce que nous sommes en train d'entreprendre. Et dans le domaine singulier, je veux dire pourquoi, du front culturel, cela est vrai aussi. Vous mettant en mouvement, vous aurez à commencer la révolution citoyenne qui doit avoir lieu sur le front culturel. Non, il ne suffira pas qu'on ait réglé entre nous la question des moyens, qui est pourtant fondamentale si l'on veut que ce que nous entreprenons ait ce minimum de dignité qui fait que l'on parle des gens vivants qui font vivre la culture. Où est la culture sans les cultureux? Il n'y en a pas. C'est comme la République. Pas de République sans républicain. Pas de socialisme sans communiste. Pas d'écologie sans ministre. Eh bien, il ne suffira pas de traiter cette question. Et je sais que tout le monde dans cette salle le ressent. Mais quand même, réglons-la d'abord. Ne vous occupez pas d'argent. Il y en a. Beaucoup. Ce n'est pas le sujet. Aujourd'hui, l'action culturelle du gouvernement coûte moins cher que la politique d'expulsion des immigrés. Tout ce qui est dépensé, c'est à peine 3% des profits totaux. Alors, ne vous chagrinez pas pour cette affaire d'argent. Nous la réglerons. Nous la réglerons politiquement et nous n'aurons pas d'autres moyens. Pas parce que nous aimons ça, mais nous n'aurons pas d'autres moyens que le rapport de force. Nous n'aurons pas d'autres moyens que d'affronter le système. Je préférerais, comme tout le monde, la vie douce, tranquille d'un seul coup. J'aimerais mieux qu'il n'y ait pas besoin de tout cela, mais hélas, c'est être adulte et responsable de le savoir. L'affrontement est devant nous. Ceux qui croient qu'on s'arrange par des compromis, à l'heure à laquelle nous parlons, doivent se souvenir que ces compromis finissent toujours par être des compromissions et les compromissions des capitulations. Regardez ce qui se passe en Grèce. Tenez-vous le pour dit, nous sommes tous sous cette menace. La cupidité du système est sans bord. Elle aveugle les dominants. C'est une caractéristique des grandes périodes de l'histoire que l'aveuglement des dominants, qui croient toujours que le passé va pouvoir continuer. Le passé ne veut pas mourir. Et pourtant, il le faudra bien. Alors, m'y voici. La question des moyens, oui. Des institutions culturelles, oui, mais révolutionnées. La vie des créateurs, oui. Mais avec pour projet révolutionnaire d'abattre la cloison qui fait l'aliénation, c'est celle qui assigne à chacun un rôle dont il ne sortira pas, celui-là crée, celui-là consomme. La muraille que l'humanisme militant veut faire tomber, c'est celle qui présuppose un dépassable cette séparation. Comme parmi les puissances se figure qu'elle est indépassable, la frontière qui sépare celui qui sait de celui qui ignore. Alors qu'entre les deux, il y a le processus tout humain des partageux qui s'appelle l'éducation. Entre celui qui crée et celui qui va se transformer au contact de cette création, non, la frontière n'est pas définitive. Et je reviens sur ce point parce que depuis notre première rencontre au Grand Parquet, on m'a interrogé sur le fait que lorsque je parle de cette façon, est-ce que je suis en train de nier la spécificité des créateurs? Mais non, mille fois non. Marche devant nous l'humanité tout entière. Les poètes, les chercheurs, les écrivains, les musiciens, les plasticiens. Et nous, nous tâchons, à notre façon, en bénéficiant de ce qu'ils nous ont apporté, nous-mêmes de sortir hors de nous. Pour nous grandir et être meilleurs êtres humains. et meilleur créateur que nous le sommes déjà aujourd'hui, peinant misérablement avec notre crayon, tâchant d'imiter avec notre violon ce que nous avons entendu. Cette première forme de la révolution, qui est de vaincre cette frontière-là, elle est centrale. De quoi parlons-nous depuis ces trois réunions? Quoi? Le monde manquerait de culture? Mais on se trompe. Il est rempli de culture. L'univers humain est intégralement culturel. Les êtres humains sont des êtres de culture. Jusqu'au point que des illusions culturelles, parfois de supériorité d'un groupe par rapport à un autre, peut conduire à la mort. Comme l'exemple de ces Vikings qui, paraît-il, ne voulaient pas manger de poisson. Parce que c'était les Inuits qui en mangeaient, qui les considéraient comme des animaux. Jusqu'à ce qu'eux-mêmes, n'ayant rien mangé, finissent par disparaître. Où l'on voit qu'il y a un rapport entre l'écologie et la culture. Car seul l'aveuglement culturel peut faire croire que le monde est abandonné à notre prédation sans limite. Comme les enfants qui croient que l'univers est infini et l'amour des parents de même. Tout disposés qu'ils sont parfois jusque dans l'âge adulte à les soumettre à leur tyrannie. Notre monde est un monde de culture. Mais c'est une culture globalitaire. Oui, il y a une culture officielle, mais ce n'est pas celle que nous portons. La culture officielle, c'est celle du monde globalitaire. Je dis globalitaire, le mot est composé avec global et totalitaire. Parce que pour la première fois de l'histoire humaine, il n'y a qu'un seul système qui organise toute l'humanité et la tient tout entière dans les mêmes réseaux. Et pour y faire consentir, comme dans tous les systèmes, ainsi que cela a été rappelé tout à l'heure par ce texte merveilleux, après quoi on ferait mieux d'en rester à se taire, de la Boétie. Il y a cette force du consentement à la servitude, que l'on nomme l'habitude, et l'habitude est du culte. Et les objets de la culture qui nous façonnent jusque dans notre intimité, sans même parfois que nous le sachions, ils sont là à tout instant, à toute seconde. Quelqu'un a parlé du temps tout à l'heure, disant que sa dimension, dimension invisible de l'univers social, n'était pas assez bien comprise. Regardez un film. Demandons-nous pourquoi dorénavant le moindre plan ne saurait durer plus de quelques secondes. Tandis qu'il y a encore si peu de temps qu'ils étaient plus longs. C'est que le monde totalitaire vit sur la vitesse et le temps zéro. Tout le pouvoir est au temps zéro, celui des nanosecondes, des échanges d'argent. Et comme dans tous les systèmes, à toutes les époques, il impose son temps qui est le temps dominant et ses méthodes et ses images à tous les autres compartiments de la vie humaine. Nous sommes sans cesse traités, considérés, conditionnés comme du temps de cerveau disponible pour cette consommation sans fin qui nous fait croire que nous existons, alors que nous nous contentons d'être placés dans la situation du rouage du système. Le système crée les besoins, il ne les satisfait pas. Il les crée, puis il les modèle, il les formate. Dans l'univers entier, une seule mode, les mêmes objets partout, les mêmes comportements recommandés. Et partout, les mêmes petites élites hallucinées, qui se croient intéressantes parce qu'elles participent des valeurs de ce temps, de sa cruauté, de sa violence, de sa sauvagerie. Ah non, nous ne méritons pas que nous soit fait le procès à nous, d'être des normalisateurs, car au contraire, dans cet ordre globalitaire, c'est nous qui ouvrons la faille de la liberté, en recommandant la culture dont vous avez parlé à cet instant, mais qui est la contre-culture. Je viens maintenant à ce qui, moi, me préoccupe, après après tout, comme vous, et puis j'ai le privilège d'avoir le micro et de ne pas vous le rendre. Il faut bien que ma situation ait un avantage. On ne peut pas traiter de notre bataille culturelle sans traiter de son contenu. Une fois qu'on a réglé les problèmes des moyens, une fois qu'on a réglé le problème de l'éveil à l'aptitude d'être cultivé, que nous avons évoqué à plusieurs reprises à travers la question essentielle de l'éducation. Ce n'est pas après qu'on y aura pensé un jour. Ou bien alors, ça signifie que nos enfants accéderont à la culture disponible par voie d'héritage. C'est ce qui se passe quand nous racontons pas l'histoire. Les élèves dont on a parlé tout à l'heure n'ont pas hérité en famille des mêmes biens dont les nôtres, peut-être dans cette salle, ont hérité. Alors, une fois qu'on a aussi réglé cette question, oh, ce n'est pas la plus simple. Je me souviens des reproches amers qui m'ont été faits étant ministre de l'enseignement professionnel lorsque nous avons ouvert 1750 classes à projets artistiques et culturels. Le reproche fut fait immédiatement que nous avions une vision utilitaire de la culture. Horrible bataille, qui consiste à décliner des orientations générales telles que nous les avons mises noir sur blanc sur le programme partagé, en montant de documents spécifiques attelés à tel ou tel aspect du problème que nous traitons, et qui sera réglé dans les ateliers législatifs prévus à cet effet. Il n'empêche, nous n'aurons fait que la moitié du travail. Ce à quoi j'appelle les créateurs, c'est à s'impliquer, du fait même de leur art et avec les outils de leur art, dans le processus de la révolution citoyenne. 1995 milliards de biens et de services de très haut niveau. Ainsi, tout le pouvoir de l'argent est concentré dans la capacité créative du très grand monde. Les arts et la culture doivent rappeler et ramener à l'estime de soi, au goût de créer, à l'idée que nous ne sommes pas promis à être soumis, et que s'il y a des sacrifices à faire, oui, il y en aura, pour certains et pas pour les autres. Et il faut le dire comme je suis en train de le dire, mais si je le dis comme ça, ce n'est que du discours politique. C'est mieux si c'est la clownette qui le dit. C'est mieux si c'est l'un ou l'autre d'entre vous qui le sculpte, qui le peint, comme on le fait derrière moi. Parce qu'alors, on ne parle plus seulement à l'esprit, on parle aussi au cœur. On essaye de faire une campagne, j'espère que vous avez apprécié. Poétique. C'est pas tous les jours qu'on met sur une affiche la France, la belle, la rebelle. Eh bien, allez, donnez encore 1000 vers, 1000 musiques, 1000 sculptures, 1000 tableaux, 1000 partitions.
De ce que j'ai vécu à ce que j'imagine, je n'en finirai pas d'écrire ta chanson, ma France. Au grand soleil d'été qui courbe la Provence, déjeuner de Bretagne aux bruyères d'Ardèche, quelque chose dans l'air a cette transparence et ce goût du bonheur qui rend ma lèvre sèche. Ma France, cette terre de liberté au-delà des frontières, aux peuples étrangers qui donnaient le vertige et dont vous usurpez aujourd'hui le prestige, elle répond toujours du nom de Robespierre, ma France. Celle du vieil Hugo tenant de son exil des enfants de 5 ans travaillant dans les mines, celle qui construisit de ses mains vos usines, celle dont Monsieur Thiers a dit la fusille, ma France. Picasso tient le monde au bout de sa palette, des lèvres des luards s'envolent des colombes, n'en finissent pas tes artistes prophètes de dire qu'il est temps que le malheur succombe, ma France.